Sommaire, c'est ça. Second, l'autre, c'est bon. J'entrerai pas dans les détails techniques pour vous expliquer pourquoi, une autre fois peut-être. Mais je vais vous lire les versets 1 à 9, d'accord? Avant de prier. Lorsque Sanballa apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit, « Laissez-les bâtir, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Puis Néhémie prend la parole dans la prière et dit, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. On va prier ensemble. Père éternel, nous sommes assemblés pour adorer ton nom, pour célébrer tes louanges, pour parler de ta gloire, Seigneur, et combien j'ai été profondément béni et édifié par ce temps de louange, par cette lecture de cette prière, Seigneur, par ce temps à célébrer ce mémorial de ton sacrifice. Maintenant, Père, nos oreilles sont disponibles. Nos oreilles sont disponibles pour que toi, tu nous parles par ta parole. Pour que ton esprit vienne prendre cette parole vivante et l'appliquer concrètement dans nos vies afin de faire en nous une œuvre nouvelle, Seigneur. Afin de continuer cette œuvre de transformation, ces reconstructions que tu fais dans nos vies, Seigneur, ces projets bénis qui viennent de toi pour rétablir ton témoignage, comme Néhémie a cherché à le faire à Jérusalem, Seigneur. Mais voilà, Père, soit en nous, soit autour de nous, les obstacles surviendront toujours lorsque nous décidons d'avancer pour toi. Il en est ainsi, Père, ici-bas, jusqu'à ton retour, Jésus-Christ, il en sera ainsi. Viens nous apprendre, Seigneur, à devenir des hommes et des femmes matures pour savoir bâtir et rebâtir dans l'adversité, pour savoir construire et établir un témoignage à ta gloire dans nos familles, dans nos cœurs, au travail, dans l'Église, Seigneur, malgré les embûches. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu comme Néhémie l'était, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à lutter, apprends-nous à combattre, Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. Opposition. Voici le titre du message de ce matin. Vous avez un homme de Dieu, d'accord, qui s'est mis à genoux. Il y a un homme de Dieu qui s'est mis à genoux, qui est allé dans la prière, après avoir prié, après avoir cherché la face de Dieu, après avoir planifié, il s'est levé. Non seulement il s'est levé, mais il a inspiré le peuple de Dieu d'une manière absolument extraordinaire. Et la scène, vous rappelez la semaine dernière, je vous ai fait lever debout, puis on a fait la lecture debout, puis j'ai dit, mais où est-ce qu'il s'en va le matin? cette scène extraordinaire où tout le peuple est réuni. Vous savez, les Israélites, c'est des gens pareils comme nous. Hein? Il ne faut pas faire les choses ensemble. On aime mieux se picosser que d'aller ensemble d'un même cœur. Ils étaient pros dans la division. C'était des Québécois de nature. Tu sais. Mais là, vous avez cette scène extraordinaire où tout le peuple est réuni, puis chacun est en train de prendre sa section de mur, puis est en train de construire tout le tour de Jérusalem. Tout est en train de se faire. Ils ont mis de côté leurs divergences. Ils ont mis de côté les petites games politiques, les petits jeux politiques, les intérêts économiques, et tout le monde est à l'ouvrage. C'est super. Vous avez là une image de l'Église de Jésus-Christ dans toute sa beauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il va se passer ce qui se passe toujours lorsque tu décides de te lever et de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il va y avoir des gérants d'estrade qui vont venir commencer à picosser, commencer à essayer de démoraliser, commencer à essayer de détruire. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voyez-vous, on n'est pas rendu au ciel. On n'est pas rendu là. Nous sommes tous pécheurs. Et il s'agit que tu décides de te lever pour faire quelque chose, abandonner simplement un péché dans ta vie. Oh, ça se peut que ça dérange quelqu'un d'autre à côté qui était confortable dans ses ruines. Puis sans juger, puis sans critiquer. Il suffit d'un regard pour te regarder, qui te regarde, puis qui te dit, « Tu sais, voyons donc. Toi, Yannick, tu vas faire mieux qu'avant? Je te connais. » Il s'agit que tu commences à bouger pour que les cœurs rebelles, l'opposition, les gérants d'estrade, trouvez-leur les noms que vous voulez, commencent à se manifester. C'est exactement ça qui se passe ici avec Néhémie. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Moïse a fait face à de l'opposition. Josué a fait face à de l'opposition. David a fait face à de l'opposition. Paul a fait face à de l'opposition. Timothée a fait face à de l'opposition. Jésus! Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus parfait que Jésus? Pas d'opposition, non, ils l'ont crucifié. Jésus a fait face à de l'opposition. Vous allez faire face à de l'opposition. Décidez de bouger pour Christ, à commencer à rebâtir sur des ruines, et vous allez faire face à de l'opposition. Probablement que vous avez fait face à de l'opposition lorsque vous vous êtes converti, quand vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Probablement que vous avez fait face à de l'opposition lorsque vous avez décidé de vous faire baptiser, de vous afficher pour Christ, de vous identifier à Christ. C'est ainsi. Autant s'y faire, prendre ça avec un grain de sel et apprendre de Néhémie. Parce que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Préparez-vous, apprenez et avançons avec Néhémie. Soyons prêts, c'est tout. Au chapitre 2, lorsque Sanballa a appris quel était le projet de Néhémie, il a commencé par se moquer. Il a commencé à attaquer les motifs de Néhémie. C'est typique comme opposition. D'accord? Au chapitre 3, la reconstruction a commencé quand même. Et de bon train. Et contre toute attente, le peuple est uni ensemble derrière Néhémie. Ils avaient déjà essayé de reconstruire. Mais par une œuvre merveilleuse de l'Esprit, ils sont prêts à suivre son leadership et ils sont prêts à entreprendre. La reconstruction a commencé. C'est de toute beauté à voir. Essayez d'imaginer cette scène. Ces gens qui ont toutes sortes d'intérêts différents, toutes sortes de projets différents, ces gens qui ont ces jeux justement de couches sociales, de ceux qui sont des patrons, de ceux qui sont des employés, tout ça, tout le monde est à l'œuvre. C'est superbe à voir, c'est extraordinaire. Alors quand Sanballa apprend que le projet va bien, là il est carrément en colère. Il est profondément irrité. Et là il décide de se monter une petite guérilla. Lorsqu'il est question de l'armée de Samarie, ce n'est pas une armée officielle. L'armée officielle était avec Néhémie lorsqu'il est arrivé, si vous vous rappelez bien. Et donc, ces petits politiciens-là, qui avaient de petits royaumes, se levaient des guérillas personnelles. Et donc, Sanballa s'est rassemblé une petite armée. Tous les historiens sont d'accord, il ne s'agit pas d'une armée officielle, mais il s'est rassemblé des troupes pour faire les basses besognes dont il a besoin pour assurer son pouvoir. Sanballa est mal pris. Il est dans une situation qui est difficile à gérer politiquement parce que Néhémie a l'approbation du roi, vous vous rappellerez. Néhémie est arrivé là avec des lettres du roi. Cependant, la capitale, Suse, est loin. C'est très loin. Et donc, il peut peut-être jouer avec le temps. Et qui sait? Si par un jeu d'influence, il arrivait à décourager Néhémie, peut-être pourrait-il même discréditer Néhémie aux yeux du roi. Parce que le rapport des mois plus tard ou des semaines plus tard que le roi recevrait, c'est que Néhémie n'accomplit pas ce qu'il avait dit qu'il serait en train d'accomplir. Mais d'une manière ou d'une autre, Sanballat est mal pris parce que Néhémie a reçu l'approbation du roi et lui est contre ça. Alors ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de décourager. Et ça va toujours comme ça. Si je le mettais dans un terme un peu plus politiquement correct, je vous dirais, vous n'aurez jamais la collaboration de tout le monde. Si vous décidez que vous bougez dans votre vie personnelle, dans l'Église, vous décidez d'établir un témoignage au travail, vous décidez d'avoir une éthique de travail différente, vous décidez de conduire votre foyer à prendre du temps dans la parole de Dieu, vous décidez de vous consacrer n'importe quoi, vous n'aurez jamais la collaboration de tout le monde. Jamais! Il va toujours y avoir de l'opposition. Ton projet aura beau être le plus beau, le plus spirituel, le plus édifiant des projets, tu auras beau vouloir le bien. D'accord, Néhémie voulait le bien de ces gens. Tu auras beau vouloir aider des gens à reconstruire leur vie avec le Seigneur. Tu auras beau vouloir mettre un ministère sur pied à la gloire de Dieu ou simplement toi te consacrer davantage au service de Dieu. Comme je disais tantôt, juste abandonner certains péchés. Réorienter tes priorités dans ta vie. Tu n'auras jamais la collaboration de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'opposition? Ben simplement, on le dirait, c'est parce qu'on est pécheur. On s'entend? On est pécheur. Mais plus concrètement, on a des exemples concrets avec Néhémie, ailleurs dans les Écritures et dans nos vies personnelles. Laissez-moi vous en donner quelques-unes. Simplement, il y a des gens qui vont s'opposer par pure jalousie. Et c'est le cas ici avec Sanballat. C'est clair qu'il y a de la jalousie de la part de Sanballat. Si il faut comprendre l'enjeu politique, l'enjeu économique, si les murs sont reconstruits, Jérusalem devient plus indépendant. Jérusalem est capable de contrôler un peu plus son économie. Jérusalem est capable de dicter certaines choses. À partir du moment où ils sont capables de se protéger d'invasions, de voyages, des gens qui entrent, qui sortent, selon leur gré. Et donc, c'est clair que Sanballat est tout simplement jaloux. Et il y a des gens qui vont s'opposer à vos projets par pure jalousie. Alors, ils ne diront pas comme ça, il va y avoir d'autres raisons qui vont être évoquées. Mais par simple jalousie. Jaloux de votre bonheur? Jaloux de votre bonheur dans le Seigneur? Il y a des gens qui vont s'opposer juste pour ça. D'autres, et c'est le cas aussi de Sanballat, disons-le clairement, d'autres parce qu'ils n'en ont absolument rien à cirer de Dieu. Je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol, Jenny. Ils n'en ont rien à cirer de l'Éternel. Jésus-Christ, ils n'en ont rien à faire. Sanballat n'avait rien à faire de la gloire de Dieu, du nom de Dieu. Quand tu arrives avec un projet spirituel, écoute, c'est dérangeant, puis ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez le vivre de la part de gens qui ne sont pas chrétiens. Vous pouvez le vivre de la part de gens qui ne sont pas contre les chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment intéressés. Parce que là, tu es juste « too much ». Tu sais, c'est comme trop ton affaire, là. Ça commence à coûter trop cher ton affaire. Tu sais, j'ai toléré ça jusque-là, mais là, ça commence à être trop, là. Soyons équilibrés quand même. Dieu n'est pas tout. Oui, Dieu est tout. « Non, mais Dieu va quand même pas, tu vas pas le voir dans ta soupe, dans ma soupe, dans mon air, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon agenda, dans mon argent, dans mon temps, je le vois partout. » Mais eux en ont rien à cirer. Alors, ils pouvaient tolérer pour un temps, mais là, quand ça commence à demander trop de dérangement, gars, ça se peut que vous le viviez même de la part des chrétiens qui se sont refroidis. Se sont éloignés du Seigneur, ont attristé l'Esprit, ont éteint l'Esprit. C'est fatigant quelqu'un qui veut marcher rempli de l'Esprit Saint quand ça ne tente pas d'écouter l'Esprit. C'est vraiment dérangeant. Vraiment dérangeant. Il y en a qui vont s'opposer parce que ça vient nuire à leur projet personnel. C'est clair que Sanballat avait des intérêts économiques et politiques. D'accord? C'est très clair. C'est sûr que s'il y a des murs qui sont là autour et on peut contrôler ce qui entre et sort aux portes, bien ça se peut que le commerce se fasse moins bien le jour du sabbat. Si on décide de consacrer une journée à l'Éternel, on ne vous laissera pas vous installer. On va le voir plus tard dans Néhémie. Et donc, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu politique. Ce que Néhémie a à cœur comme projet spirituel bon et merveilleux vient déranger les intérêts personnels de Sanballat. Et donc, par conséquent, il va s'opposer. Si vous avez des projets pour la gloire de Dieu, de reconstruction, vous allez déranger des gens parce que ça va déranger leur intérêt personnel. L'année dernière, l'Assemblée a su qu'Esther et moi, on avait fait un choix de faire un don à l'Église. Si mon épouse n'aimait pas profondément Jésus-Christ, pensez-vous qu'elle aurait été confortable avec ce qu'on a fait? Sérieusement. Sérieusement. Je ne l'aurais dérangé pas à peu près. Mais j'ai cette grâce d'avoir une femme qui a à cœur les choses comme moi. Quand j'arrive avec un projet capoté comme ça, là, elle dit, tu me laisses-tu prier une journée ou deux? Il y a des gens qui vont s'opposer parce que vous dérangez leur intérêt personnel. Il y a des gens qui vont s'opposer parce qu'ils aiment le statu quo. Ça va pas vite dans le royaume de Dieu, les choses avancent pas trop vite. C'est vrai que c'est pépère. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, mais de toute façon, on a déjà essayé, puis c'est dur, puis on n'avance pas beaucoup. Fait que brasse pas trop d'affaires, s'il te plaît. En d'autres mots, ils sont confortables dans leur ruine. C'est vrai qu'on n'est pas trop rempli de l'esprit ici, mais garde, OK? J'essaie de tenir toutes les assiettes en l'air, puis tu sais, gardons ça comme ça. J'essaie de jongler avec tous mes morceaux sans en échapper. Tu viens déranger le statu quo. Et simplement pour cette raison-là, ils vont s'opposer. D'autres vont s'opposer parce que tu viens les insécuriser. Alors peut-être que tu vas pouvoir les gagner. Ils ont besoin d'être assurés. Et ça vaut la peine d'écouter, de prier, de conseiller, d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Mais par pure insécurité, ils vont préférer ne pas bouger que d'avancer pour le royaume de Dieu. Et disons-le simplement, il y en a qui vont s'opposer parce que l'idée ne vient pas d'eux. Pour des choses aussi géniales que reconstruire le témoignage de Dieu dans ma vie, si tu leur avais passé le micro, il avait pu venir en avant puis il avait fait la promotion de cette idée-là, il serait avec toi. Mais l'idée ne vient pas d'eux, ils vont s'opposer. C'est des gérants d'estrade. Il va toujours y en avoir. Est-ce que ça veut dire que le projet ne vient pas de Dieu? Mais non, on a pris le temps pendant 3 chapitres de voir comment Néhémie avait vu que son projet venait de Dieu. Comment il avait cherché la face de Dieu dans la prière pendant 4 mois à prier, 4 mois à sonder les Écritures, à ramener les promesses de Dieu, à dire, Dieu, tu veux restaurer, ta parole est claire, les Écritures sont claires, tu l'as promis, c'est ça ton alliance. Il a ramené la parole de Dieu, il a cherché la face de Dieu, il a attendu pour voir si Dieu allait ouvrir les portes, il a planifié son projet, il a vu que Dieu ouvrait les portes. La conviction est là. Le projet vient de Dieu. Lorsqu'il y a de l'opposition, cela ne veut pas dire que le projet ne vient pas de Dieu. Des fois, ça veut dire exactement le contraire. Alors, ça ne veut pas dire que le projet ne vient pas de Dieu. Le projet de Néhémie venait de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. L'opposition va venir sous toutes sortes de formes. Parfois, ça va juste être de l'irritation. Moi, je suis un spécialiste de l'irritation. Quand je vous dis que je suis un colérique, là, c'est pas qu'on crie chez nous. Quand je vous dis que je suis un colérique, c'est l'irritation qui monte dans mon cœur. Mais vous savez, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche quand tu es irrité contre quelque chose. Les gens autour de toi le sentent. L'opposition peut venir simplement par un cœur qui est irrité, un cœur qui ne veut pas collaborer. Ça peut venir par des moqueries personnelles. Tu peux le vivre à l'école, tu peux le vivre avec des amis, tu peux le vivre avec des chrétiens. Ça peut venir par des moqueries personnelles. Ça peut venir par des moqueries à l'égard de ta foi et ta piété. Toi, Yannick, tu vas faire ça. Je ne veux pas être méchant, là, mais peut-être que tu devrais quand même viser un petit peu plus bas. Tu n'es peut-être pas rendu là. Dans le cas de Sanballat, ça en vient même à mettre de la pression en se servant d'autres personnes. Regardez avec moi au verset 2, Sanballat se moqua et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. C'est une chose quand quelqu'un vient te voir puis il dit, je suis pas d'accord avec ton projet. C'est correct. Prie pour moi, j'ai besoin de sagesse. T'sais. C'est une chose, ça. Vous savez, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Je n'ai pas le monopole du Saint-Esprit. Dans ta vie, tu n'as pas le monopole du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui n'est pas d'accord avec ton projet. Ça, c'est une chose. C'est une autre chose lorsque ça se passe comme Sanballat. On commence à répandre cette grande opinion, toute sage. Puis on commence à créer des supporters. Alors, des fois, l'opposition va venir comme ça. Ça peut venir même sous la forme de la sagesse. Il y a quelqu'un qui a plus de sagesse et qui a trouvé à s'opposer à ton projet et il s'en va chercher d'autres gens sages qui vont se ranger à ton opinion, à son opinion, et qui vont s'opposer tranquillement à ton projet. C'est comme ça que ça s'est passé ici. Et ça en vient à plusieurs moqueurs qui vont attaquer. Et Tobija, finalement, suit Sanballat ici. Et ça peut aller jusqu'à de l'intimidation, parce que Sanballat, bien qu'il sait qu'ultimement, il est impuissant, il pourrait attaquer, mais ça ne durerait pas longtemps. Il s'agit que Néhémie ait un messager qui se rende au roi pour dire « Voici, on nous attaque. » Ça va chauffer pour Sanballat. Alors, essentiellement, c'est de l'intimidation qu'il est en train de préparer. Il veut faire des petites attaques de nuit pour faire peur. Ça pourrait se rendre jusqu'à de l'intimidation. L'intimidation, ce n'est pas toujours quelque chose de physique. Ce sont des menaces de non-collaboration, des menaces de ci, des menaces de ça. Des fois, ça peut être fait avec beaucoup de douceur. Voire, dans certains cas, des menaces bien réelles. Des menaces très concrètes. Et vous savez quoi? L'opposition peut venir de partout. Je vous ai déjà parlé de Hudson Taylor. C'est la première biographie que j'ai lue après ma conversion. Cette biographie-là m'a bouleversé, ça m'a marqué à vie. C'était dans un moment où mes parents sont ici ce matin. Mes parents partaient dans un voyage missionnaire court terme à l'île de la Réunion. Puis j'étais en train de lire Hudson Taylor. Puis là, j'ai dit, c'est ça la vie chrétienne. Il faut que vous lisiez Hudson Taylor pour savoir de quoi je parle. C'est un vrai capoté pour Jésus. Mais Hudson Taylor n'a jamais eu l'appui de personne. Cet homme-là était en Angleterre, il est parti en Chine. Il a fondé une des missions les plus importantes. La mission qu'il a fondée a amené 500 missionnaires en Chine. Ils ont fondé 125 écoles et ont vu la conversion d'approximativement 18 000 Chinois. C'est extraordinaire. Quand cet homme-là est parti, il n'avait pas l'appui de sa famille, il n'avait pas l'appui d'aucune mission officiel en Angleterre. Lorsqu'il est parti, il avait le soutien financier de personne. Il s'est rendu en Chine. Les missionnaires anglais qui étaient en Chine voulaient qu'il reste dans un quartier anglais. Hudson Taylor, il a dit, on va pas amener les Chinois à Jésus-Christ en buvant du thé. En tout cas, pas du thé anglais. Il va falloir aller manger du riz. Hudson Taylor leur a dit, il faut se raser la tête, se faire pousser une queue, s'habiller comme les Chinois. Une tresse, ici en a, comme eux à l'époque. Ils ont dit, mais t'es malade. C'est plein d'affaires du diable là-dedans. Faut pas aller vivre avec eux. Alors Hudson Taylor a quitté les Anglais puis est allé vivre avec les Chinois. Les Chinois ont dit, mais c'est un Anglais. On voulait le tuer. Est-ce que ça veut dire que son projet ne venait pas de Dieu? L'opposition est venue de partout. Il n'a eu l'appui de personne au départ. Mais l'Esprit-Saint était avec cet homme-là. Et cet homme-là, dans son approche, a révolutionné toute l'approche qu'on utilise depuis cette époque dans la mission, comprenant qu'on doit aller vivre avec les gens, pas leur apporter notre culture occidentale. Alors l'opposition peut venir sous n'importe quelle forme, de n'importe qui, et ça ne veut pas dire que le projet ne vient pas de Dieu. Comment faire face à l'opposition? Et on va l'apprendre ensemble avec Néhémie. Premièrement, tourne-toi vers Dieu plutôt que vers tes opposants. Avant même de regarder à la drôle de prière, là, je sais que vous êtes tous troublés par la prière de Néhémie. On appelle ça une imprécation. Seigneur, casse-leur les dents, c'est mes adversaires. On va regarder ça ensemble, ce ne sera pas long. OK? Mais avant même de regarder le contenu de sa prière, regardez l'attitude de Néhémie. Plutôt que de se préoccuper de ses adversaires, Néhémie se tourne vers Dieu. Néhémie n'est pas distrait outre mesure par ses adversaires. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose pour le royaume de Dieu, puis vous avez quelque chose à cœur, puis ça va être gros parce que ça demande de changer des choses dans votre vie, ça demande des renoncements, ça demande de la consécration, ça demande de la prière. Et puis là, à un certain moment donné, il y a un gérant d'estrade qui vient vous picosser dans le dos, puis qui vient comme juste vous fatiguer tout le temps. C'est tellement facile, c'est un piège incroyable. Juste de, tu sais, tu t'en allais dans cette direction-là, t'as arrêté, tu t'es levé de ton lazy boy, puis t'as décidé que tu faisais quelque chose pour Christ dans ta vie. Puis là, t'as ce picocheux-là qui vient sur tes épaules. C'est tellement tentant juste de perdre le focus, puis de t'en retourner, puis de dire, « Ouais, mais on va se parler, toi puis moi, puis on va régler ça ensemble, puis je vais te gagner à ma cause. » Il vient de gagner. Alors, regardez l'attitude de Néhémie. Néhémie ne se laisse pas distraire par ses opposants. Plutôt que de leur donner toute l'attention qu'ils auraient tellement voulu avoir, il se tourne vers Dieu dans la prière. Je ne sais pas quel projet Dieu a placé sur ton cœur, ce que tu es en train d'entreprendre, mais lorsque l'opposition va venir, elle veut te distraire. Si elle peut seulement te distraire, elle n'a pas besoin de te convaincre qu'elle a raison. À partir du moment où elle te distrait de ce que Dieu a placé sur ton cœur, elle a gagné. Parce que tu arrêtes d'avancer. Tu as perdu le focus. Le piège est énorme, je vous le dis. Le piège est énorme. Parce qu'à ce moment-là, les opposants commencent à entrer dans ton cœur, dans tes pensées, viennent te faire perdre le focus. Tu n'es plus là. Tu perds ton momentum, tu perds ton énergie, tu perds ta joie de servir. Si tu peux juste, s'ils peuvent juste t'amener à te rasseoir dans ton lazy boy spirituel, mon ami. Ils ont gagné. Néhémie a cette sagesse de ne pas se laisser distraire. Comment est-ce qu'il le fait? Il se tourne vers Dieu. Deuxièmement, va te vider le cœur dans la prière. Voyez-vous, cette prière de Néhémie est un peu troublante pour nous dans notre perspective à nous. Et comme je vous dis, on va s'arrêter sur le contenu de sa prière. Mais avant d'aller vers le contenu, j'aimerais ça juste attirer votre attention sur le fait que ça peut être vraiment lourd d'avoir des picosseux, des gérants d'estrade, des gens qui s'opposent à nos projets. C'est déjà une chose quand tu étais bien évaché dans ta petite vie pépère de ruine spirituelle, puis tu décides de te lever, c'est déjà une chose, ça demande beaucoup d'énergie, d'avoir quelqu'un qui vient puis qui s'en vient picosser, qui s'en vient s'opposer, un boulet. Ça peut devenir extrêmement lourd. Ton cœur peut se remplir de complaintes, de frustrations. Et là, tu commences à murmurer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Va te vider le cœur dans la prière. Va vider ton sac au pied de la croix. Va dans la prière. Dieu est prêt à admettre beaucoup de choses qui vont sortir de ta bouche, je te le dis. Il connaît notre cœur. Lisez les psaumes, il est capable d'en encaisser beaucoup, beaucoup de frustration. Beaucoup. Va dans la prière, dis-le. Autrement, ils vont déjà avoir gagné. Parce que tu ne leur as pas répondu, mais ils occupent toutes tes pensées, ton cœur, toute ton attention. Va dans la prière et vide ton cœur. Néhémie fait une drôle de prière ici. On appelle ça une imprécation. C'est plus rare dans le Nouveau Testament, mais il y en a quand même dans le Nouveau Testament des imprécations. Mais il souffre. Il est irrité dans son cœur. Il dit « Ne pardonne pas leurs péchés. » Il prie pour qu'ils soient exilés, mais qu'ils vivent la même chose que nous. Ils ne veulent pas comprendre qu'on veut reconstruire les murs, qu'eux autres soient exilés. Dieu a cette capacité extraordinaire que nous n'avons pas de regarder au cœur plutôt que de regarder à l'extérieur. Et on a un bel exemple avec Job. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, pensez à Job. Job dit des drôles de choses à Dieu. Il y a des moments où tu écoutes Job, puis il dit, « Viens-t'en, Seigneur, on va s'expliquer, toi puis moi. » C'est parce qu'il y en a qui ont été frappés pour moins que ça, Job. Là. Je veux dire, Uzza, tu sais, il a juste touché à l'arche. Dis pas ça, Job. Dis pas ça. Mais écoutez bien le témoignage que Dieu rend à Job. Dans Job 38:2. D'une part, Dieu réprimande Job, puis lui dit, « Job, t'en as dit des niaiseries, mon ami. » Écoutez ce qu'il dit. Dans Job 38:2, il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » C'est Dieu qui parle à Job après l'avoir écouté pendant des semaines, des mois. à dire, « Seigneur, il faut qu'on se parle parce que je pense que tu n'as pas vu. Là. Je pense que si j'argumentais avec toi, je gagnerais la bataille, Seigneur. » OK. « Qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Après, lorsque Dieu parle aux faux amis de Job, voici ce qu'il dit dans Job 42:7. Job leur parle, il parle à Éliphaz et lui dit, « Ma colère est enflammée contre toi, Éliphaz, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et je retiens de ceci, que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde à ce qui se passe dans le cœur. Et Dieu est capable d'entendre mes complaintes, d'entendre mes douleurs, d'entendre mes découragements, d'entendre mes fardeaux, d'entendre mes plaintes à l'égard de ceux qui s'opposent à ce que j'essaie enfin de faire pour faire avancer les choses pour la gloire de Dieu. Alors, quand tu vis de l'opposition, quand tu vis du découragement, de la frustration, va dans la prière et vide ton cœur, vide ton sac devant Dieu. Va lui dire, « Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois pas, ils sont en train de s'opposer encore. Ils essaient de me décourager, Seigneur. » Ça se peut que ça sorte tout croche. Ça se peut que ce ne soit pas toujours joli ce qui sort de ta bouche. Mais ton Père céleste qui est là voit ton cœur, voit ta souffrance, il voit ta frustration. Maintenant, la question difficile. Est-ce qu'un chrétien peut faire une prière comme celle de Néhémie? On la relit, d'accord? Néhémie 4:4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Ça va, hein? Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Est-ce qu'un chrétien peut faire une prière semblable? Mais comme je le disais, on trouve plusieurs de ces prières dans les psaumes. On appelle ça des prières imprécatoires. Une prière imprécatoire, c'est quand tu dis « Dieu, fais justice, il y a des méchants là-bas qui s'opposent à moi, donne-leur une tape sur le nez. » OK, c'est ça une prière imprécatoire. Tu vois ce que je fais pour toi, eux autres s'opposent, ramasse-les Seigneur, je t'en prie. Je veux justice. Ça, c'est une prière imprécatoire. On en a dans les psaumes, on en a un peu dans le Nouveau Testament, on en trouve chez Jérémie. Jérémie fait des prières imprécatoires. Assez lourde, merci. Regardons premièrement ce que Néhémie est en train de demander dans les versets 4 et 5. En gros, ce que Néhémie demande, c'est que Dieu fasse justice. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Néhémie est en train de demander à ce que Dieu vienne faire justice en prenant la défense de ceux qui font le bien et que Dieu fasse justice en rendant à ceux qui font le mal. Et fondamentalement, c'est une excellente prière. C'est une prière qui cadre parfaitement avec qui est Dieu. Dieu est juste. Dieu est saint et il est juste. Que je demande à Dieu d'être juste concorde parfaitement avec qui est l'Éternel. De par sa nature même, Dieu s'est donné pour mandat de prendre la défense de l'innocent et de juger et condamner le coupable. Non? C'est Dieu. Je veux dire, s'il ne fait plus ça, il n'est plus Dieu, là. On va aller s'en chercher un autre, honnêtement. C'est dans sa nature, Dieu est juste. Et la prière de Néhémie, c'est « Dieu, prends la défense de l'innocent, celui qui cherche ta gloire, qui veut établir ton témoignage, celui qui veut faire le bien aux pauvres, celui qui veut protéger, celui qui est pillé par les pillards. Viens prendre notre défense. » Et juge et condamne le méchant. Sa prière est bonne, c'est une bonne prière. Comment ça se fait? Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, en 2010, en 2011, nous regardions cette prière-là et puis qu'on voit les choses un petit peu autrement, un petit peu différemment? Suivez bien mon raisonnement ici, c'est très important. Je vous rappelle une clé importante pour comprendre tout l'Ancien Testament, d'accord? La première chose à garder à l'esprit, c'est que vous et moi vivons après la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et l'explication que je vais vous donner concernant les prières imprécatoires et comment nous devrions prier dans de telles circonstances repose sur ça, d'accord? Nous vivons après la venue de Jésus-Christ, mais surtout nous vivons après la croix. Pour nous qui vivons après la croix, nous devons toujours lire l'Ancien Testament à la lumière de ce que Christ est et de ce que Christ a accompli. Toujours. Lire aujourd'hui l'Ancien Testament sans voir à l'esprit l'œuvre que Christ a accomplie à la croix me condamne à mal comprendre l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ est venu nous révéler Dieu comme aucun autre, dans sa personne et dans son œuvre. Alors, si vous ne comprenez pas l'œuvre de la croix, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas comprendre l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on encourage des gens qui cherchent à commencer par l'Évangile de Jean. « Ah moi je suis un vrai, moi je commence avec la Genèse. » Rappelle-moi quand tu arrives dans les rois, s'il te plaît. Okay? Donne-moi un coup de fil avant d'abandonner. Ce serait le fun, tu lis Jean, tu sais. Alors, nous vivons après la venue de Jésus-Christ, après la croix, et nous devons relire l'Ancien Testament à la lumière de ce que Christ nous a révélé. Et ça nous aide à comprendre pourquoi on a un certain malaise avec cette prière de Néhémie. Ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce que Jésus nous enseigne, non pas à faire une prière comme Néhémie, c'est-à-dire à prier contre nos ennemis, mais Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Dans Matthieu 5, 44, voici ce qu'on lit. « Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous haïssent, ceux qui vous aiment, je m'excuse, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, qu'est-ce qui change avec la venue de Jésus? Est-ce que Jésus est moins sévère que l'Ancien Testament? Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement pour le méchant, pas de punition pour le mal? Ma compréhension du Nouveau Testament, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Moi, je trouve que la prière de Néhémie est très, très douce comparée à certaines paroles de Jésus sur le méchant. Je pense que ce que Jésus a annoncé pour celui qui ne se repent pas est beaucoup plus grave que toutes les prières que Néhémie, Jérémie et toute la gang ont pu faire. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu 25. On va lire ensemble Matthieu 25, 31. Jésus va parler de lui-même en se présentant comme le Fils de l'homme, d'accord? C'est l'expression qu'il va utiliser, qu'il utilisait régulièrement d'ailleurs. Matthieu 25, 31 à 41. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il nous parle donc de son retour, celui que nous attendons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. » J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. » Il n'y a personne dans toute la Bible qui a parlé de la géhenne, d'un feu éternel, d'un châtiment éternel comme Jésus-Christ. Personne. Personne. Il n'y a personne d'aussi sévère pour le sort du méchant, de celui qui est non repentant, de celui qui s'oppose à Dieu. Il n'y a personne qui est aussi sévère que Jésus-Christ. Il n'y a personne qui nous a rendu aussi clair comme vision, sinon Jean dans l'Apocalypse, personne n'a rendu aussi clair devant nous la vision du destin éternel de ceux qui s'opposent à Dieu, de ceux qui rejettent Dieu. Néhémie demande dans sa prière que les méchants soient punis. Jésus annonce qu'ils seront punis éternellement. Il n'y avait même pas ça dans la prière de Néhémie. En ce sens, le Nouveau Testament est beaucoup plus dur et sévère que l'Ancien Testament parce que la vision de l'éternité est beaucoup plus claire dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et en fait, la foi en Jésus-Christ, placer notre foi dans ce que Christ a accompli à la croix, vise premièrement à nous mettre à l'abri, justement. C'est pour ça qu'on place notre foi en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix. C'est pour se mettre à l'abri de ce juste jugement qui repose sur nous aussi. Parce que le Nouveau Testament, mieux que l'Ancien Testament, nous aide à réaliser que nous sommes tous pécheurs. Que ces imprécations que Néhémie fait, tous les hommes les méritent en réalité. Parce que nous sommes tous pécheurs et condamnés. La croix est le seul moyen par lequel Dieu pouvait justifier, c'est-à-dire déclarer juste, des pécheurs, des injustes comme vous et moi. C'est exactement ça que l'apôtre Paul déclare dans Romains 3. Je vais juste vous lire quelques versets, Romains 3, 21 et suivant. « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. » Le Nouveau Testament annonce un jour de jugement pour tous les hommes. Dieu rendra justice. Dieu va exaucer la prière de Néhémie. La justice que Néhémie réclame va être rendue un jour et beaucoup plus sévèrement encore que Néhémie aurait pu l'imaginer. Et comme je le disais, ce qui est plus inquiétant, c'est que si on lit bien la Bible, si on lit bien le Nouveau Testament, nous comprenons que nous sommes tous condamnés. Ces imprécations que Néhémie fait contre les méchants, c'est pour nous tous, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est seulement en se plaçant derrière la croix de Jésus-Christ qu'on peut se mettre à l'abri de ce jugement. Alors, ce qui change dans notre perspective, ce qui fait que nous lisons une prière comme celle de Néhémie avec un certain malaise, c'est que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et nous savons deux choses. Et c'est ça qui change tout dans notre perspective. Un jour, la justice sera rendue. Ce sera un terrible jour, un jour glorieux. Un jour glorieux où tous les abuseurs d'enfants impénitents, tous les violeurs, tous les menteurs, tous les fourbes, tous les vicieux, tous les pervers, tous les fraudeurs, tous les adultères, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ne se seront pas placés derrière la croix de Jésus-Christ seront jugés éternellement. Et nous savons cela comme chrétiens. Ça change notre perspective devant nos ennemis. Deuxièmement, nous savons que si Dieu ne nous avait fait grâce en Jésus-Christ, ce qui nous attendait était bien plus grave que ce que Néhémie demandait pour ses ennemis. Nous savons que nous sommes des graciés. Ça change aussi la perspective. Ça nous permet d'avoir un regard différent sur nos ennemis. Et c'est pour cette raison que Jésus nous dit « Aimez vos ennemis. Votre Père qui est dans le ciel vous a fait grâce, vous êtes des graciés ». Un jour, justice sera rendue. Et à tous ceux qui seront impénitents, tous ceux qui ne se repentiront pas de leurs péchés, tous ceux qui ne s'accrocheront pas à la croix de Jésus-Christ, justice sera rendue. Laisse ça à Dieu pour l'instant. Toi, aime-les, bénis-les, fais-leur du bien. Prie non contre eux, mais prie pour eux, parce que tu es un gracier, parce que tu sais que tu étais de leur camp avant que la grâce ne vienne te toucher. Tu es un gracier. Sois à l'image de ton Père qui t'a fait grâce. Alors, qu'est-ce que nous, on peut apprendre de la prière de Néhémie? Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre quand même. Devant l'opposition, je veux me tourner vers Dieu dans la prière plutôt que donner de l'attention à ceux qui s'opposent. Ce serait déjà jouer leur jeu. Je veux apprendre de Néhémie et apprendre à aller vider mon sac devant Dieu. Jésus l'a fait lorsqu'il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Le Fils de Dieu fait une prière semblable. Oui, Dieu connaissait son cœur, il connaissait déjà les combats qu'il y avait là. Mais non ma volonté par la tienne. Alors j'apprends à aller vider mon sac, comme Néhémie, comme Jésus, dans la prière. Parce que ça gruge, ça détruit si je ne m'en vais pas dans la prière de recevoir toutes ces attaques des opposants. Troisièmement, je peux apprendre de la prière de Néhémie de croire que Dieu est capable d'arrêter mes ennemis. Dieu est capable de les arrêter. Si Néhémie s'est tourné dans la prière, c'est parce qu'il croyait que Dieu était au-dessus, puis Dieu pouvait tous les faire mourir là. Alors, dans un sens, je peux prier parfois contre mes ennemis. Je vais prier pour leur âme, je vais prier pour leur bien, mais je vais dire, Seigneur, arrête-les. Arrête-les parce que moi, je veux répandre l'Évangile. Arrête-les, fais-les taire, Seigneur. Amène-les ailleurs. Je veux voir ta gloire. Fais-les taire, Seigneur. Change leur cœur. Dispose leur cœur en faveur de tes projets, Seigneur. Amène-les avec moi. Éloigne-les de moi, Seigneur. Pas de problème. Je vais les aimer, je vais les bénir. Je vais prier que Dieu les arrête parce que comme Néhémie, je crois que Dieu est souverain. On a vu ensemble la prière de Néhémie, puis je veux juste qu'on tire deux derniers éléments de ce passage-là. Regardez bien avec moi le verset, on revient dans Néhémie, je m'excuse. Regardez bien avec moi le verset 6. L'opposition se manifeste de plus en plus. C'est quoi la réaction du peuple? C'est quoi la réponse du peuple? C'est quoi la réponse de Néhémie? Verset 6. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur le travail. » Quand il y a de l'opposition, redouble d'ardeur. Quand il y a de l'opposition, mets tout ton cœur dans ce projet-là. Il vient de Dieu, mets tout ton cœur dans cet ouvrage. Ça vient de Dieu. Fonce, avance, ne te laisse pas distraire. Redouble d'efforts, comme eux autres. Tu vas les confondre. Dieu va les confondre. Et enfin, dernièrement. Néhémie est fascinant parce que Néhémie fait éclater nos préjugés de l'homme super spirituel puis du pragmatique. Néhémie, c'était un homme sage et c'était un homme de Dieu. C'est un homme spirituel et c'était un homme pratique. C'était un homme de prière et c'était un homme d'action. Regardez ce qu'il fait au verset 9. Quel beau résumé, c'est tellement sage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Prière et action. Néhémie était cet homme qui avait confiance en Dieu et qui était sage. Si Dieu a placé sur ton cœur des projets pour sa gloire, si Dieu veut rétablir des choses dans ta vie et autour de toi, si Dieu veut se servir de toi pour bâtir un ministère, si Dieu veut se servir de toi pour faire avancer son royaume, il va y avoir de l'opposition. Ça ne veut pas dire que le projet ne vient pas de Dieu. On a appris ensemble avec Néhémie comment savoir si nos projets viennent de Dieu. Mais il va y avoir de l'opposition, toutes sortes d'opposition, toutes sortes de formes d'opposition. Ça peut venir de n'importe où. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'ils vont avoir ta peau puis ils vont te ramener dans ton lazy boy spirituel? Tu vas rembarquer sur le cruise control puis tu vas te satisfaire de tes ruines? Tourne-toi vers Dieu. Laisse-les pas te distraire. Tourne-toi vers Dieu. Va dans la prière. Fais confiance que Dieu peut les arrêter. Vide ton sac devant le Seigneur. Autrement, même si tu es allé dans la prière, ils vont occuper toutes tes pensées, je te le dis. Ils vont te bouffer par en dedans, je m'excuse. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont dévorer ton énergie pour le Seigneur. Il faut que tu vides ton sac dans la prière. Tu dis, Seigneur, arrête-les, je t'en prie. Viens les bénir. Aie pitié d'eux. Je vais les gagner. Tu vas les confondre. Ils vont venir à Christ à cause de ça. Mais arrête-les. Arrête-les. Redouble d'ardeur. Il y a de l'opposition, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ils seront confondus. Moi, je vais garder le focus. Et enfin, dernièrement, prie. Mais sois sage. Sois sage. Sois sage. Planifie, examine. Cherche ce que tu peux faire pour que ton projet arrive à aboutissement. Et Dieu va faire des belles choses, les amis. Le Saint-Esprit est en train de faire des belles choses dans le cœur de plusieurs. Je l'ai dit dernièrement, mais je suis humilié et réjoui de voir comment Dieu est en train de faire des choses dans le cœur de plusieurs dans l'Assemblée. J'attends beaucoup plus que ça de la part de Dieu. Il sait, je lui dis. Et Dieu va faire des belles choses. On va prier ensemble. Oh Seigneur Jésus, tu es notre modèle, Seigneur, et nous voulons apprendre à aimer nos ennemis dans la prière. Seigneur, nous savons d'abord et avant tout que nous sommes des graciés. Si ce n'était de ta grâce, Seigneur Jésus, nous mériterions, Seigneur, ces imprécations que Néhémie prononce sur ses adversaires. Parce que j'étais, moi, Seigneur, ennemi de Dieu. Le terme n'est pas trop petit, Seigneur. Par ma vie, par mes attitudes, mes actions, mes comportements, mon indifférence envers toi, envers le pauvre, mon indifférence envers ceux autour de moi qui souffraient par mes péchés. J'étais ennemi de Dieu. Mais tu as jugé bon, Seigneur, dans ton amour, mon bon Père céleste. Tu as jugé bon non seulement d'envoyer ton Fils sur cette croix, mais d'ouvrir les yeux de mon cœur pour que j'aie l'intelligence de saisir la croix, de saisir ton amour, de comprendre cet amour merveilleux manifesté à la croix. Ton Esprit est venu en moi et m'a donné la repentance et la foi pour que je puisse me voir, moi, pécheur, et que je puisse voir la beauté de ta croix, Seigneur, la grâce qui m'était offerte. Et Seigneur, tu as insufflé en moi cette vie nouvelle, ce second souffle, Seigneur, la vie de celui qui est gracié, qui est libéré de toute condamnation, de toute chaîne, Seigneur. Sois béni. Seigneur, je désire prier pour mes ennemis, leur faire du bien, les aimer. Être un modèle d'humilité devant eux, un modèle de grâce, Seigneur. Et dans ta grâce, je te demande de les sauver. Je sais qu'un jour, tu rendras justice. Je sais qu'un jour, Seigneur, la justice sera rendue. Entre-temps, je te demande, Seigneur, de les ramener à toi afin qu'ils soient de notre nombre, graciés. Continue ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Nous t'aimons tendrement. Il n'y a nulle part ailleurs où j'aimerais être qu'auprès de toi, Jésus. Amen. Amen.